Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée, un super de bon vendredi. On va avoir un beau week-end. Puis pour ce qui est de la température, bon, on parlera pas trop de la température parce que les derniers jours, on y a goûté, mais sachez que la semaine prochaine, on va être dans le plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et j'ai même vu pour jeudi ou vendredi prochain des possibilités d'avoir un plus 6 degrés. Donc, on s'en va vers le bon chemin, on s'en va vers le printemps. Mon invité de ce soir, vous serez pas déçus puisque c'est quelqu'un qui laisse personne indifférent. C'est un gars super intéressant. C'est un gars de Québec aussi, un gars de Québec qui habite maintenant à Montréal pour faire carrière. C'est Olivier Bernard, le fameux pharmacien qui est avec moi. Salut Olivier!
Allô!
Merci d'être là ce soir puis de te rendre disponible pour la belle gang de Boulevard. Et vendredi, je sais que des fois, vous travaillez tellement que c'est pas super évident de se rendre disponible, mais tu le fais, puis un gros merci.
Ah, sérieux, ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super content.
Comment la vie se passe pour toi à Montréal? Est-ce que ça va toujours aussi vite ou ça a relaxé là, peut-être dans les derniers mois? Parce que je sais que pendant la pandémie, tu travaillais énormément, là.
Ah, pendant la pandémie, je pense que j'ai jamais travaillé aussi fort de toute ma vie. Là. C'était un peu fou. Puis là, ben, j'ai pas vraiment tant arrêté après ça. Je me suis embarqué dans un projet, puis après un autre projet, puis après un autre projet, mais des beaux projets. J'ai du fun, j'aime ça parce que je fais. C'est, ouais. C'est correct.
Est-ce que tu pratiques encore le métier de pharmacien? Est-ce que j'allais dire en clinique, là, mais dans ta pharmacie?
Depuis l'année passée, j'en ai pas fait. Parce que là, j'ai comme trop de projets. Tu sais, je fais beaucoup de la vulgarisation scientifique maintenant. Ça occupe vraiment une grosse partie de mon temps.
Ouais.
Donc, c'est sûr que j'ai moins de temps qu'avant. Donc là, depuis l'année passée, j'en ai pas fait. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que je vais recommencer bientôt? Je sais pas trop, honnêtement. J'essaie de conjuguer tous ces différents rôles-là que j'ai maintenant, puis de faire fonctionner ça. Mais j'ai pratiqué pendant presque 20 ans, dans le fond. Fait que c'est quand même... Une pas pire feuille de route comme pharmacien aussi.
Ouais. T'es un gars de Québec, t'es parti de Québec, t'avais quel âge?
Ben, dans le fond, je suis parti en 2006, fait que j'avais 25 ans.
25 ans, donc là, t'avais déjà ton bac en pharmacie dans les poches, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai fait mon bac en pharmacie. En fait, là, juste rapidement, pour les gens de Québec, j'aime tout le temps ça, dire des petites affaires. Moi, j'étais allé à l'école La Courvilloise au secondaire, j'étais allé au cégep de Limoilou. Campus de Limoilou. Après ça, j'ai étudié à l'Université Laval en pharmacie. J'ai fait une maîtrise en pharmacie au centre de recherche du CHUL. Puis après ça, après avoir terminé ça, là, je suis parti à Montréal.
Oui, puis tu as continué l'école. Je pense que tu es allé chercher d'autres spécialisations. Là.
Bon, j'ai fait un micro-programme après, mais mes études, ça a pas mal arrêté là. Dans le fond, moi, à partir de 2006, j'ai fait différentes choses. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique quelques années. Ensuite de ça, ben là, j'ai commencé à faire de la vulgarisation, puis maintenant, je suis installé ici avec ma blonde, puis on est quand même bien, mais nos familles sont à Québec, fait qu'on vient souvent.
Ouais. T'avais-tu l'intention, quand t'étais plus jeune, d'être régulièrement dans les médias, de discuter régulièrement de science avec les lecteurs ou encore avec les auditeurs ou les téléspectateurs?
Ah non, absolument pas. Je savais même pas que c'était une carrière qui était possible. Moi, quand j'étais jeune, en fait, je voulais être coroner. C'était ça mon rêve. Je savais pas trop qu'est-ce que c'était, mais ça, je trouvais que ça avait l'air le fun. Fait que je me disais, je vais peut-être étudier en santé, donc peut-être médecine. Là, après ça, j'aimais beaucoup la chimie. Je suis allé en pharmacie un peu sur un coup de tête, en fait. Je savais pas trop pourquoi j'allais là. Mes autres choix à l'université, j'avais mis pharmacie, droit, puis génie agroalimentaire. Donc, tu sais, visiblement, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Faire de la télé, d'être dans les médias, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé par accident, en fait. J'ai jamais souhaité ça.
Puis le pharmacien, avant d'être le pharmacien, est-ce que c'était quelqu'un qui était timide dans la vie? Est-ce que c'était quelqu'un qui était social ou même asocial?
En fait, je suis encore totalement très timide. Là.
Ah oui?
Vraiment. Puis je sais que des fois, quand on voit des personnes qui sont, tu sais, comme toi, exemple, t'es dans les médias, des gens qui font de la radio, qui font de la télé ou autre. Puis moi, là, je suis une personne qui est extrêmement introvertie. Je suis très, très gêné. Je suis très timide. N'importe qui me rencontre dans la rue le sait, là, puis le voit. Donc, c'est pas nécessairement un métier qui était... disons, dans mes cordes d'emblée, là, tu sais, à cause de ça. Donc, c'est un métier que j'ai, j'ai dû apprendre à conjuguer finalement avec le fait que moi, je suis quelqu'un de quand même très, très timide.
Puis comment tu as monté le fameux pharmachien? Comment tu as débuté en faisant ce personnage-là, si on veut?
Oui, ben moi, en 2012, ça faisait 8 ans que j'étais pharmacien dans ce temps-là. Puis j'ai toujours été fasciné par les croyances par rapport à la santé, donc toutes les choses qui circulent, que nous, dans le domaine de la santé, on est comme, mais comment ça, ça circule encore, ça? Tu sais, du genre, on attrape le rhume quand on a froid, ou la vitamine C guérit le cancer, tu sais, des choses que ça fait 50 ans qu'on sait que c'est pas vrai.
Mais en fait, les gens disaient ça dans le temps. Nos grands-mères disaient ça pour nous protéger ou pour tenter de nous convaincre de s'habiller un peu plus chaudement. Mais tu sais, plus on vieillit, plus on est capable de réfléchir, faire les lectures, tu t'aperçois que la grippe n'a aucun lien avec le fait de mettre un foulard ou non, là.
Non, exactement. Ou même, là, tu mentionnes la grippe, tu sais, la distinction entre le rhume et la grippe. Les gens disent « j'ai eu la grippe », alors qu'en réalité, ils ont eu le rhume. C'est deux maladies complètement différentes. Donc, beaucoup de choses comme ça que moi, je voyais dans ma pratique. Puis, je pense que j'avais un peu une fascination pour ça. Fait que je me suis juste dit, ben pourquoi est-ce que je pourrais pas essayer de créer quelque chose? Au début, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. C'était les débuts de YouTube. C'était aussi les débuts de Facebook. Donc, j'ai commencé à faire des choses sur Facebook. C'était super. Dans ce temps-là, il n'y avait presque pas de professionnels de la santé qui étaient sur les réseaux sociaux. Fait que tout ça était à défricher. Fait que j'ai juste essayé des choses puis juste sans savoir exactement où ça allait m'amener.
Ça t'a-tu fait peur à un moment donné quand tu as vu que ça a commencé à lever puis il y a des gens qui commençaient à t'appeler pour peut-être d'autres boulots que ce que tu pensais continuer à faire, c'est-à-dire d'être pharmacien?
Oui, ça m'a vraiment... Ben, ça m'a surpris, ça, c'est sûr. Puis, moi, je pense que... au début, j'étais quand même enthousiaste. À un moment donné, j'ai commencé à avoir des appels de « Hey, veux-tu faire une chronique à la télé, à la radio? » Puis là, je me disais « Ah, ben pourquoi pas? » C'est tellement rare que des professionnels de la santé s'expriment sur la place publique. T'sais, c'est pas quelque chose qu'on entend super souvent. Fait que moi, je pense que j'étais quand même très ouvert par rapport à ça, puis j'avais une volonté aussi d'essayer des choses, puis d'ajouter des cordes à mon arc dans un sens, puis moi j'avais aucune, tu sais, j'ai aucune formation là-dedans de parler publiquement, mais oui, ça m'a fait un peu peur, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'on me posait on me demandait de venir parler de n'importe quel sujet, tu sais, je me faisais demander, peux-tu venir nous parler de l'Alzheimer, après ça, peux-tu venir nous parler de tel nouveau virus qui vient de sortir au Brésil, peux-tu nous parler de telle chose, puis je suis comme, attends, moi je suis pharmacien, là, j'ai pas toutes les expertises qui existent. Fait que rapidement, il a fallu que j'essaie de voir, ben OK, quand est-ce que je devrais dire oui ou quand est-ce que je devrais passer ça à un de mes collègues.
Ouais, c'est ça. Ben j'imagine que c'était une source de stress parce que de un, c'est excitant de faire des trucs qu'on pensait pas de faire mais qui pourraient peut-être nous intéresser puis qui sait où est-ce que ça va aller. Puis de l'autre côté, c'est de pas détruire ce que t'as fait au départ, c'est-à-dire le fameux pharmacien qui se penchait sur des mythes, qui démystifiait les choses. Tu sais, de perdre la crédibilité dans ce milieu-là, c'est assez facile quand tu t'en vas dans quelque chose que tu connais pas, tu sais. Puis les gens, on dirait que plus les années avancent, plus ils sont intolérants. S'ils se rendent compte que tu dis des choses qui sont pas nécessairement en lien avec ce que tu disais avant, ils vont tout de suite te le renoter. Fait que tu sais, c'est un peu stressant, ce niveau-là.
Ah, oui, absolument. Puis d'ailleurs, moi, ma vulgarisation que je fais, elle s'adresse vraiment au grand public. Donc, c'est vraiment adressé à n'importe qui n'a pas de connaissances particulières sur la santé ou la science. Mais il y a beaucoup de gens de la communauté scientifique médicale qui me suivent quand même. Des gens de toutes les professions. Donc, c'est sûr que moi, là, si je dis une niaiserie sur quelque chose, là, je me le fais dire assez rapidement. Là. Je vais avoir un épidémiologiste qui va m'écrire, je vais avoir une biochimiste qui va m'écrire, ou tu sais, je le sais rapidement si je dis quelque chose d'incomplet ou etc. Fait que c'est sûr que c'est pas à mon avantage de commencer à parler de tout et de rien ou de parler à travers mon chapeau parce que je vais me faire rentrer dedans assez vite, là.
Oui, c'est sûr. Puis en même temps, de par ton métier, tu n'avais pas nécessairement des gens. Les gens se présentaient à la pharmacie, te demandaient des conseils, ils ne remettaient pas ta parole en doute. Tu ne faisais pas nécessairement face à l'adversité. Une fois que Olivier Bernard devient le pharmacien, devient public, ben là, tu vas avoir Jacques qui n'a jamais étudié dans un domaine puis qui ne connaît pas nécessairement le sujet que tu abordes, qui trouve que bon, ben Olivier, il manque de crédibilité, puis je pense que je vais lui dire, parce que moi, ce qu'on me dit, c'était pas ça pantoute. Tu sais, t'as à faire face à ce genre de vent de face-là, puis tu te dis, mais voyons, tu sais, si seulement les gens prenaient la peine d'ouvrir le livre, puis de lire un peu, il verrait que ce que j'ai dit là, ça concorde exactement avec là où la science est rendue.
Oui, absolument. Puis ça, c'est vraiment une réalité avec laquelle peu de professionnels de la santé ou même de scientifiques en général sont confrontés. C'est-à-dire que tu fais ta petite affaire, tu fais ton travail à chaque jour. Tu sais, les gens qui travaillent en science, comme dans bien des domaines, c'est des gens qui sont typiquement très passionnés par ce qu'ils font. Tu sais, non seulement c'est un métier, mais ils sont aussi vraiment, ils trippent sur ce qu'ils font. Fait que c'est sûr qu'ils font leur travail, puis là, après ça, ils rentrent chez eux le soir, puis là, ils vont parler un peu de tout sur les réseaux sociaux, puis là, ils se rendent compte qu'ils reçoivent des insultes, puis de la haine, puis des opinions, puis des choses. C'est très confrontant quand on commence à faire ça. Moi, j'ai eu la chance de commencer en 2012. En 2012, Internet, en fait, les réseaux sociaux étaient assez différents d'aujourd'hui. À l'époque, c'était pas aussi pire qu'aujourd'hui. Tu sais, fait que moi, ça a commencé quand même smooth, honnêtement. Tu sais, j'ai passé les 3-4 premières années à avoir vraiment beaucoup de fun là-dessus. Donc, oui, des fois, des petites insultes, des petites critiques, mais tu sais, honnêtement, ça allait quand même vraiment bien. Mais c'est sûr que là, maintenant, ça fait 12 ans que je fais ça. J'ai vu le paysage des réseaux sociaux changer. Tu sais, je l'ai vu sous mes yeux. Puis c'est sûr que quand des collègues me disent « Ah, moi, j'aurais le goût de faire de la vulgarisation aussi en ligne » ou « C'est-tu facile? » ou c'est sûr que j'ai des gros avertissements pour eux parce que je leur dis « Ouais, attends un peu, il faut que tu te mettes une armure en Kevlar. » Doublé parce que ça peut être intense.
Ouais, je parlais avec Charles Côté de Drôlement Inspirant. Je pense que c'est avant-hier. Puis, tu sais, on a beau avoir sur 100 messages, on a beau en avoir 99 qui nous félicitent. On va bugger sur le message qui nous insulte puis qui s'en va dans le personnel. Malheureusement, on dirait que le corps humain est mal fait. Mais avec le temps, on vient qu'à se faire une petite armure en se disant, regarde, il a le droit à son opinion, c'est son opinion. Moi, j'ai le droit à mon opinion, puis je l'ai vérifié, puis ça concorde avec ce que je pense, avec mes valeurs et tout ça. Donc, j'y vais de l'avant, même si... Dans le fond, Olivier, on peut... Tu sais, de l'adversité de la part des autres, on en a quand on fait quelque chose. Tu sais, les gens qui font rien n'auront jamais d'adversité de la part des autres. Ils se feront jamais challenger ou ils feront jamais d'erreur. Nous, on se donne le droit de faire des erreurs dans les médias, mais on se reprend. Tu sais. On peut dire, ben, regardez ce que j'ai dit par rapport à telle ou telle chose. Il y a eu des erreurs de fait. Là, voilà ce qu'il y en est. Puis on peut se raviser. Mais il y a toujours le Jacques qui va revenir avec quelque chose qu'il a vu passer sur Internet, qui va venir nous chercher avec son commentaire hyper négatif, même si pour le reste, on a eu une belle chronique ou tu as eu une belle prestation, on a vu le pharmacien, tout le monde en parle, ça a bien été, mais il s'agit juste tout le temps d'une personne qui vient nous poignarder pour gâcher un peu notre moment, mais... Tu sais, je pense que comme tu l'as dit à tes collègues qui voulaient faire ce genre de métier-là, faut être blindé. Puis une fois qu'on est blindé, on est capable de passer, au travers. La pandémie, tu sais, je veux pas parler de pandémie nécessairement, mais tu sais, t'as dû recevoir des messages de haine, Olivier. Ça avait pas de bon sens. Moi, je travaillais pour une station de radio qui remettait parfois en doute les conférences de presse du gouvernement, puis on mettait des questions qui étaient peut-être un peu plus difficiles. T'sais, des deux côtés, des fois, on avait des menaces de mort. Il y en a qui étaient contents qu'on pose ces questions-là, il y en a d'autres qui étaient mécontents. Je me dis, toi qui es dans la science puis qui devais vulgariser les choses, tu devais recevoir une tonne et une tonne de messages qui n'avaient pas de maudit bon sens. As-tu déjà eu des menaces?
Ah, oui. Ben, j'en suis à toutes les semaines, en fait, depuis une dizaine d'années. Là. C'est sûr que c'est triste de dire ça. Je me souviens, en fait, une fois, c'est drôle parce que ma blonde puis moi, on parlait de ça. Puis elle me disait, hey, Olivier, t'en reçois-tu, t'as des menaces? Ça fait une couple d'années de ça. Elle dit, t'en reçois-tu des menaces? Puis je suis comme, ben, tout le temps. Puis elle dit, qu'est-ce que tu veux dire tout le temps? Puis là, j'ai montré mon Messenger puis les messages que je recevais en privé, que c'était juste constant, là. Puis elle a dit, ben, voyons, Olivier, comment ça que tu laisses aller ça? Comment ça que tu fais rien? Puis j'étais comme, ben, ça fait juste partie de la job, tu sais. Puis elle m'a dit, non, ça devrait pas faire partie de la job. Fait que, c'est sûr que j'ai tout le temps des sentiments un peu ambivalents par rapport à ça. Tu sais, moi, il y a probablement certains messages que j'ai reçus au fil des années que j'aurais probablement dû faire de quoi avec ça. J'aurais probablement dû en parler à la police ou autre. Je pense que moi, j'ai tout le temps essayé de pas trop y penser parce que des fois, si tu commences à avoir peur tout le temps, ben là, tu vas avoir peur de te prononcer. Tu sais. Ouais. Fait que moi, j'ai quand même une chance aussi, je dois dire, là, qui est que moi, j'ai toujours eu un très, très fort appui de mes collègues, tu sais, autant les pharmaciens et pharmaciennes, mon ordre professionnel, les associations médicales scientifiques ont toujours été de mon... Tu sais, ils m'ont toujours beaucoup soutenu. Ils m'ont défendu même quand je fais des choses difficiles publiquement. Donc, moi, c'est sûr que je me sens tellement avec un appui fort que je me trouve vraiment chanceux parce que c'est plus facile à vivre dans ce temps-là. Mais quelqu'un qui décide de faire ça tout seul puis qui n'a pas d'appui, là, pour le moral, ça doit être extrêmement difficile.
Ah, ça doit. J'ai un de mes anciens collègues que tu dois connaître, Christian Page, qui est le spécialiste du paranormal, l'enquêteur du paranormal, qui avait répondu à une question au 98.5. Je pense que c'était avec Dutrisac dans le temps. Dutrisac qui posait des questions sur les fameux chemtrails. Et Christian Page est arrivé et il dit « Bon, je comprends qu'il y a des gens qui appellent ça les chemtrails, mais le vrai mot, c'est des contrails, donc des traînées de condensation. » Puis il avait tout expliqué, le processus de la traînée de condensation. Puis il y avait eu des menaces de mort tellement que le 98.5 avait dû embaucher des gardes du corps pour que Christian puisse sortir de la station en toute sécurité. Les gens sont, quand ils sont challengés dans leur façon de voir les choses ou dans les choses qu'ils ont appris, peut-être des choses qui étaient peut-être pas vraies, dès qu'ils sont challengés, ils deviennent extrêmement agressifs. Puis Christian m'avait dit, moi, les chemtrails, je ne veux plus en parler parce que ça rend les gens totalement fous.
Oui, puis c'est ça qui fait un peu, qui est préoccupant en ce moment, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels c'est rendu tellement sensible, ces sujets-là, qu'il y a des personnes qui font, moi, je ne veux plus en parler. Puis moi, avant, je m'étais toujours dit, puis je me faisais souvent poser cette question-là, je me faisais dire, hey, Olivier, y a-t-il un sujet dont tu ne parlerais pas dans ta vulgarisation? Puis avant, ma réponse était non. Non, moi, je vais en parler de certains sujets, je vais parler de tout parce que je trouve que c'est important. En 2024, après avoir fait ça pendant 12 ans, il y a des sujets que j'ai décidé que j'en parlerai pas, honnêtement, parce que il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y en a quelques-uns que ça, je veux dire, c'est trop dur à prendre. Ça ne vaut pas la peine. Puis à un moment donné, ben si tu te retrouves dans une situation où tu n'es même plus capable, je veux dire, psychologiquement, ou même si tu as peur pour ta sécurité, c'est un peu comme les exemples que tu donnes là. C'est parce qu'à un moment donné, il faut être capable de continuer aussi. Moi, mon but, c'est de la vulgarisation, d'être capable d'en faire aussi longtemps que humainement possible. Là, ben oui. C'est sûr que si je fais exprès pour tout le temps me mettre dans des positions où je vais justement avoir des gens qui sont fâchés contre moi, ben à un moment donné, je ne serais pas capable de tenir la run. Donc, il faut prendre soin de soi-même. Il faut quand même, des fois, faire certains choix. Moi, j'en ai pas beaucoup de situations comme ça. Mais occasionnellement, je vais faire, est-ce que quoi? Ça, là, je vais le laisser à d'autres parce que là, je vais choisir mes combats.
Ah, puis c'est une bonne chose. Puis en plus, ben, tu fais, t'es rendu à un endroit dans ta carrière où tu peux te permettre d'accepter des choses puis de ne pas les accepter. Fait que ça, c'est très bien. Tu as écrit beaucoup de livres. Moi, ce que je constate, c'est que tu es un gars extrêmement créatif. Puis quand tu étais venu me voir dans le temps, dans le fameux Chautard où je t'avais rencontré pour la première fois, je me rappelle pas si c'était dans le début de ta carrière de vulgarisateur, mais tu étais venu à la station puis on parlait de tes dessins. Puis tu disais que tes dessins n'étaient pas nécessairement parfaits, alors que moi, je regardais tes dessins puis je trouvais que tes dessins étaient exceptionnels, Olivier. T'as-tu réussi à accepter que finalement, tes dessins, ils sont exceptionnels?
Ah, ben, écoute, t'es super gentil de dire ça. Moi, j'ai pas besoin que mes dessins soient exceptionnels. Hein. Honnêtement, si je regarde les dessins que je faisais en 2012, parce que moi, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. C'est comme ça que j'ai commencé en 2012. Donc, ouais. Je faisais des petites vidéos, je faisais de la bande dessinée, mais moi, je sais pas dessiner. Fait que c'est sûr qu'au début, c'était laid. Puis au fil des années, c'est devenu moins laid. Puis, tu sais, les derniers que j'ai faits, je les regarde. Puis, comment? C'est une belle évolution sur une dizaine d'années, tu sais.
OK, mais quand t'as commencé, tu savais pas dessiner?
Ouais. Non, pas du tout. Moi, je dessinais avec PowerPoint. J'utilisais même pas un vrai logiciel de dessin. Là, je faisais des carrés puis des ronds avec PowerPoint. Puis c'était ça, mes bandes dessinées.
OK.
Fait que je me suis vraiment amélioré au fil des années, comme n'importe qui passe beaucoup de temps à faire. Si tu passes beaucoup de temps à faire un sport, tu deviens meilleur. Ben, moi, c'était un peu pareil avec le dessin. T'sais. Puis, ultimement, est-ce que c'est grave? Ben, c'est pas grave. T'sais. Moi, l'important, c'est que ça dise ce que ça a à dire. Moi, mon but, ça a toujours été d'utiliser un peu un. J'ai utilisé beaucoup l'humour dans les dernières années. J'utilise beaucoup un langage informel. T'sais, je veux pas que ça soit difficile à comprendre. Je veux que ça soit simple. Je veux que ça soit quand même le fun. Tu sais, souvent, les gens m'ont dit « Ah, wow, c'est vraiment divertissant ce que tu fais. » Fait qu'ils me disent pas « Ah, c'est super informatif. » Ils vont me dire « C'est vraiment divertissant. » Puis moi, c'est parfait. Tu sais, si ça divertit, puis qu'en plus, comme un effet secondaire, ils apprennent quelque chose. Moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de super positif. Oui. Maintenant, mon style est un peu différent. Là, je fais moins ce style-là, je fais moins de la BD maintenant. Mais je vais toujours être fier de cette période-là parce que c'était nouveau, puis c'était le fun. Ça a bien fonctionné.
Ouais, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tes dessins, j'ai trouvé vraiment nice. Puis toi, tu me disais, non, j'ai de l'amélioration, j'ai des choses à faire. J'étais là, ce gars-là est un perfectionniste. T'en es-tu un? Parce que être un perfectionniste en science, là, surtout sur la science, est constamment remise en doute. Ça doit être assez particulier, là, ce qui se passe dans ta tête des fois.
Bien, il y a beaucoup de gens en science qui sont des perfectionnistes. Et moi, je côtoie beaucoup des chercheurs, chercheuses, parce que dans ce que je fais comme vulgarisation, ça m'amène à interviewer beaucoup de spécialistes dans plein de domaines. Puis souvent, les gens, c'est des perfectionnistes. Puis, tu sais, être perfectionniste, il y a un niveau où ça peut devenir maladif, puis que ça peut devenir un frein, puis un problème. Mais, tu sais, je pense que dans des métiers où les détails comptent, c'est surtout une qualité. Moi, comme pharmacien, là, quand je travaillais en pharmacie clinique, activement, ben une micro-erreur d'inattention de confondre la petite pilule blanche avec l'autre petite pilule blanche, tu peux causer des dommages graves à quelqu'un. Fait que être perfectionniste, c'est une belle qualité. Puis quand tu es dans un domaine où que ton travail, c'est de vérifier de l'information, de faire des recherches dans la littérature scientifique, mais encore là, ce désir-là de vouloir pousser les affaires assez loin, je pense que c'est généralement une qualité. Puis je pense qu'on la retrouve quand même assez souvent chez des personnes de science. Puis moi, ben dans mes dessins, je pense que j'aime ça, des fois, essayer des choses dans lesquelles je ne suis pas naturellement bon. Fait que je pense que c'est pour ça que je voulais être meilleur en dessin. Je me disais, ça serait le fun de devenir un dessinateur pas pire. Puis j'y suis jamais arrivé à mon goût, mais en même temps, c'est pas grave, tu sais, parce que c'est comme, je suis content d'avoir quand même, de m'être quand même amélioré là-dessus.
Ben oui, puis là, t'es rendu à quelques livres, là, t'en as-tu une dizaine de livres ou t'en as encore plus que ça?
J'en ai cinq.
T'en as cinq, ok.
J'en ai cinq, j'en ai deux, trois pour adultes puis deux pour enfants.
Exact. Puis ça, est-ce que c'était un de tes rêves de faire des livres pour enfants, pour les initier à la science? Le petit garçon qui posait trop de questions, est-ce que c'était toi, finalement?
Oui, c'est ça. Mon premier livre pour enfants s'appelait « Le petit garçon qui pose trop de questions ». Puis ça, c'est vraiment inspiré de ma jeunesse, mais pas juste de moi. Tu sais, la plupart des enfants, ils posent des questions qui n'ont aucun bon sens, du genre « Pourquoi l'eau est mouillée? » Puis là, t'es comme « Voyons, qu'est-ce que je vais répondre à ça? » Moi, je trouve ça fascinant, cette curiosité-là que les enfants ont. Puis, à un moment donné, quand je suis arrivé autour de 2017-2018, dans ces années-là à peu près, ben, ça faisait déjà quelques années que je faisais de la vulgarisation. Puis, j'ai vraiment remarqué que avec les adultes, là, c'est quand même difficile de changer des perceptions. Tu sais, quand on est adulte, là, c'est dur de changer d'idée sur des choses. On a comme toutes sortes, on est ancré dans nos idées puis dans nos patterns. Tandis que les enfants, ils sont très, très ouverts d'esprit. Ils sont un peu comme des scientifiques naturellement. T'sais, ils se posent plein de questions puis sont ouverts à peu près à toutes les possibilités. Fait que j'ai commencé à faire plus de choses pour les jeunes. Fait que j'ai écrit les livres. J'ai commencé à faire des conférences aussi dans les écoles sur la pensée critique. Fait que c'était comme une autre tentative de me dire, ben, écoutons, peut-être qu'en interpellant un peu plus les enfants, ben, ça pourrait aider pour les générations futures au niveau des mauvaises informations qui circulent.
Est-ce que tu mettais ton père dans le pétrin quand tu lui posais des questions étant plus jeune? Parce que le mien me met, mon plus vieux, en fait, là, il est à l'âge où il pose énormément de questions. Moi, j'aime beaucoup la science j'en connais un peu. C'est très loin de tes connaissances à toi. Mais mon garçon, il me disait, « Papa, pourquoi je vois un chien dans les nuages? » Puis là, j'ai expliqué que c'était de la pareidolie. Tu sais, le cerveau déteste ne pas connaître quelque chose. Donc, quand il voit quelque chose, il donne une forme. Puis là, ben, toi, tu as l'impression que c'est un chien. Mais en fait, c'est ton cerveau qui s'amuse. C'est de la pareidolie. Et là, de me dire, mais qu'est-ce qui donne la forme aux nuages? Là, Joshua, je ne sais pas qu'est-ce qui donne la forme aux nuages. Tu sais. Je ne sais pas pourquoi les gouttelettes de condensation restent toutes ensemble, ça donne une forme. Mais les enfants ont une curiosité. Moi, je n'ai jamais posé cette question-là, qu'est-ce qui donne la forme aux nuages? Mais mon gars regardait dans le ciel, puis il se posait cette question-là. Tu sais. Puis il ne faut pas éteindre cette flamme-là de vouloir toujours en connaître plus. Tu sais. Trop souvent, des parents vont dire, ben là, le nuage est comme ça, mais il est comme ça. Mais c'est important de pousser ses réflexions peut-être un peu plus pousser ses réflexions un peu plus loin puis en connaître un peu plus. T'sais. À un moment donné, tu vas le savoir, c'est quoi qui donne la forme au nuage, puis en discuter avec ton enfant. Pas éteindre sa flamme en lui. Là.
Absolument. Puis ça, c'est ce que les spécialistes recommandent aussi, c'est-à-dire qu'on a tendance des fois à vouloir donner des réponses toutes faites, très simples, puis tu sais, si l'enfant pose une question, dire « ben c'est ça », puis point final. Alors que c'est plus intéressant pour un enfant de présenter ça comme « hey, ben qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une réponse ensemble? Comment est-ce qu'on peut y réfléchir ensemble? » De transformer ça en un jeu ou, tu sais, puis honnêtement, c'est un peu ça la méthode scientifique dans un sens, tu sais, c'est de... Tu te poses une question, puis là, ben, plutôt que d'arriver avec une réponse toute faite que tu as lue ou que tu as que t'es arrivé dans ta tête, ben, tu regardes, ben, attends, c'est quoi les outils qui sont à ma disposition pour trouver une réponse? Puis ça, les enfants, ils l'ont cette soif-là. Donc, tu as raison de dire qu'il ne faut pas l'éteindre. Il faut au contraire l'alimenter. Puis moi, je ne blâme pas les parents. Moi, j'en ai pas d'enfant. Honnêtement, ça n'a pas l'air facile à gérer tout le temps. Avec, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu es épuisé, puis tu sais, comme, regarde, c'est ça la réponse. Mais, quand l'opportunité se présente, effectivement, ce qu'on devrait faire, c'est d'y aller vraiment plus d'une manière ouverte. Puis d'apprendre à l'enfant aussi l'incertitude. T'sais. Des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Puis de dire, hey, c'est quoi? La réponse, je ne le sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais ça, c'est important d'apprendre cette humilité-là intellectuelle aux enfants. Parce que ça, c'est une des plus belles qualités qu'on peut avoir dans la vie, même comme adulte, l'humilité intellectuelle, de dire, hey, j'en sais pas assez là-dessus pour me forger une opinion éclairée en ce moment. Donc, c'est important d'apprendre ça.
T'as-tu l'impression qu'au Québec, la science est moins bien perçue en raison du fait que le citoyen régulier dont je fais partie a peut-être pas tout, est peut-être pas capable d'avoir toute l'information nécessaire? Moi, j'ai découvert très jeune que l'anglais, c'était très important pour savoir ce qui se passait ailleurs. Donc, en étant capable de comprendre l'anglais, ben, je m'informais sur ce qui se passait aux États-Unis, je m'informais sur ce qui se passait en Europe, sur d'autres continents. La science, est-ce qu'on a un petit peu de difficulté à y avoir accès parce qu'on est francophone?
C'est une super bonne question que tu poses là. En fait, ben, premièrement, quand on regarde au Canada, là, donc là, ma réponse ne sera pas spécifique nécessairement au Québec pour commencer, mais quand on regarde au Canada dans les études, le niveau de littératie scientifique, c'est-à-dire des connaissances générales sur la science, au Canada, on se compare avantageusement à tous les grands pays. Donc, tu sais, on n'est pas en arrière. Tu sais, on est semblable ou même élevé. Fait, les Canadiens, en général, ils ont des bonnes connaissances en sciences de base. Après ça, est-ce que ça nous limite de pas parler en anglais? C'est une bonne question. Je sais pas, honnêtement. Il faudrait poser la question à quelqu'un qui a étudié ça spécifiquement. C'est sûr que ça aide. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, mais mes parents m'ont toujours laissé écouter la télé en anglais. J'écoutais G.I. Joe, j'écoutais Transformers, puis des choses comme ça en anglais. Fait que je pense que ça m'a donné... J'étais très bon en anglais très rapidement. Fait que c'est sûr que le jour où il a fallu comme que je lise des choses en anglais, ça a tout de suite été beaucoup plus facile. J'avais peut-être une petite longueur d'avance. Puis en science, bien, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se font en anglais. Mais après ça, on fait de l'excellent contenu en science, en français, là, au Québec. Là, il y a de l'excellente vulgarisation qui se fait, de l'excellente communication scientifique. L'éducation scientifique dans les écoles est de très bonne qualité. Fait que, longue réponse pour dire que je suis pas sûr, mais c'est sûr que ça aide quand même.
Ouais. Mais tu sais, c'est, mettons, tu voulais la mienne, hein, c'est, mettons, je me posais moi-même la question. Je pense que dans les dernières années, des gars comme toi qui sont arrivés dans l'univers médiatique, ou un gars comme Normand Voyer, que j'aime bien, qu'on voit une fois de temps en temps à Salut Bonjour, ou des journalistes scientifiques, là, Simon Clich, es-tu Simon Clich dans Le Soleil aussi?
Jean-François Clich. Bon journaliste scientifique.
Que j'aime bien lire, puis qui tombe des fois sur des sujets, puis qui challenge un peu ce qui a déjà été mentionné par d'autres personnes. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré, mais si je me réfère aux années 80-90, quelqu'un qui lisait pas, qui n'était pas capable de comprendre l'anglais, était très limité, parce que des gars comme Jean-François Clich, il y en avait pas tant. Là. Puis des Olivier Bernard, le pharmacien, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Normand Voyer, dans les années 80, il était dans son laboratoire, tu sais, puis il sortait pas, puis il faisait pas de conférences pour parler de science, puis de vulgariser cette science-là. Je pense qu'on est plus... Nos enfants sont plus chanceux d'être nés dans les dernières années que des gars qui sont nés peut-être dans les années 60, 70, 80 mm-hmm. qui nous écoutent.
Ben, tu as probablement raison. Écoute, même moi, tu sais, si je regarde... moi, le jour où j'ai découvert, par exemple, les livres de Carl Sagan, qui a été un vulgarisateur scientifique extrêmement important, puis qui a juste écrit en anglais, moi, c'est sûr que ça a changé ma vie, tu sais, puis je pense qu'avant, il y en avait peut-être moins de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire de la vulgarisation ou des choses en sciences, puis c'est une bonne chose. Puis moi, je rencontre souvent il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont à l'université, puis qui me disent, hey, j'ai le goût d'en faire, ça me tente. Puis ils vont faire ça bénévolement. Hein, t'sais. Il y a plein de gens qui m'ont contacté pendant la pandémie, qui se sont partis des pages Instagram, puis ils ont commencé à faire de la vulgarisation juste bénévolement après leur quart de travail ou après leur journée dans le laboratoire. Puis moi, je trouve ça tellement inspirant, tu sais, qu'aujourd'hui, ben étant donné qu'on a les outils, tu sais, on a les réseaux sociaux, ben, il y a des gens qui décident de le faire. Alors qu'avant, c'était peut-être plus difficile aussi d'avoir des canaux de communication. Tu sais, je veux dire, en fait, chez vous, c'est correct, là, mais il faut que tu sois capable de parler aux gens. Puis ça, cette barrière-là n'existe plus maintenant. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, en fait.
Dans tes livres, tu parles quelquefois de manipulation, donc des gens qui vont entrer avec monsieur et madame dans des discussions pseudo-scientifiques, puis ils vont tenter de manipuler l'autre personne avec des faux arguments. Est-ce que tu t'es basé sur des faits vécus, des gens que tu as croisés qui tentaient de te challenger sans savoir que tu étais pharmacien, que tu avais une base en sciences? Est-ce que tu t'es basé là-dessus pour donner des trucs aux gens pour voici une méthode infaillible pour vous immuniser face aux faux débats, là?
Ouais, ben en fait, moi j'ai commencé autour de début 2017, j'ai commencé à axer vraiment plus ma vulgarisation sur la pensée critique. Donc comme tu dis là, donc de reconnaître qu'est-ce qui est un bon argument, reconnaître les faux arguments, pourquoi ça fonctionne pas. Donc j'ai vraiment changé un peu. Mais avant je faisais plutôt voici tel sujet puis voici ce que vous devriez savoir là-dessus. Puis à un moment donné j'ai réalisé que il y avait des grosses limites à ça. Hein, parce que si tu donnes pas les outils aux gens. Et après ça, ils seront pas plus capables de se débrouiller par eux-mêmes. Moi, j'ai commencé à faire ça en 2017 parce que c'est là où j'ai commencé à être peut-être un peu plus connu, on va dire. Mon travail a commencé à être exposé à beaucoup plus de gens. Donc là, j'ai participé à quelques émissions de télé, entre autres, qu'il y avait des grosses plateformes. Puis là, il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient pas. Puis là, la quantité de messages que j'ai commencé à recevoir à ce moment-là, là, c'était très, très différent. Là. C'est comme si tout d'un coup, là, en l'espace de quelques mois, là, il y a plein de gens qui ont appris mon existence. Puis là, la quantité de choses que je recevais, puis je voyais qu'ils étaient des faux arguments pour me contredire. Puis là, j'ai bien vu que de juste dire la détox, c'est pas bon, ou la vitamine C, ça marche pas, ou tu sais, j'ai bien vu qu'il y avait des limites à ça. Puis là, je me suis dit, mais attends un peu là. Comment est-ce qu'on peut mieux outiller la population? Donc, oui, c'est du vécu, définitivement, mais c'est vraiment qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de justifier leurs opinions avec des mauvais arguments. Puis je me suis dit, plutôt que de juste les contredire, pourquoi est-ce que je n'essaie pas d'expliquer pourquoi ce n'est pas un bon argument? Puis comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de notre argumentation aussi collectivement?
Est-ce que ça existe des débats scientifiques au Québec?
Ah oui, oh oui, ben, tout le temps. Écoute, ben oui. Moi, je vais souvent dans des congrès scientifiques, là, il y a tout le temps des débats. Il y a même des chicanes des fois. Là.
Est-ce qu'on aurait avantage à les mettre à la télé pour que les gens puissent se faire une tête eux-mêmes? Moi, je regarde beaucoup la télé de France, ce qui se fait en Europe. Puis des fois, il y a deux personnes qui ont à peu près les mêmes études, même champ d'expertise. Ils débattent sur quelque chose, puis les deux sont aux extrêmes, puis ça parle très fort. Puis à un moment donné, moi, je suis qui pour savoir qui a raison, qui a tort, mais veux pas, tu te poses la question, il y en a un qui s'exprime mieux, tu dis « Ah, ben lui, il a de l'air à connaître un peu plus son affaire », mais au moins, c'est deux opinions qui sont exposées, puis on peut se faire une tête, t'sais. Pourquoi on n'a pas ça au Québec, tu sais? Je sais pas, moi, il se passe quelque chose dans le merveilleux monde scientifique, puis à un moment donné, à tout le monde en parle, on amène Olivier Bernard, puis on amène un autre scientifique en débat, puis on montre ce débat-là. Pourquoi ça n'existe pas, ça?
Parce que c'est une très mauvaise pratique médiatique de faire ça, en fait. C'est ça la raison. Oui, puis je pense qu'ici, on est quand même plus prudent par rapport à ça. Donc ça, ça porte un nom, en fait. Là, en anglais, ça s'appelle le false balance ou la fausse équivalence en français. Donc c'est vraiment de dire, bon, on va prendre un scientifique qui représente l'opinion généralement acceptée chez les scientifiques là, par rapport à telle question. Donc, par exemple, est-ce que tel vaccin est bon? Est-ce que telle diète, c'est pertinent? Est-ce que tel médicament est sécuritaire? Là, on va prendre une personne qui représente l'opinion majoritaire. Tu sais, vois-tu ce que pas mal tous les experts ou les spécialistes pensent? Et là, on va aller chercher quelqu'un qui a une opinion contraire et qui représente peut-être 0,0001% de la communauté scientifique. Et là, on nous présente ça comme si c'était un débat. C'est pas un débat, en réalité. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'opposer une position marginale à une position qui est largement acceptée ou qui est consensuelle, puis qui est basée sur quelque chose de solide. Puis ça, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Et moi, c'est une des choses qui me préoccupe le plus, en fait, dans la sphère publique, c'est quand on fait ça. Puis ça, malheureusement, beaucoup de médias font ça. Moi, j'essaie de sensibiliser les médias à l'importance de ne pas faire ça. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qui arrive? Bien, on met sur un pied d'égalité deux points de vue qui sont absolument pas comparables. Et les gens à la maison lisent l'article ou écoutent l'émission. Puis là, comme tu disais, connaissent pas le sujet. Fait que là, ils sont obligés d'essayer de se forger une opinion basée là-dessus. Comment ils font pour savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, etc. Donc, les débats scientifiques, les vrais débats scientifiques, là, ils doivent se faire dans les congrès scientifiques, ils doivent se faire dans les journaux scientifiques. C'est important parce que si on mélange le public à ça, mais comment est-ce que le public, lui, est supposé savoir ce qui est vrai ou pas vrai? Ça met vraiment le public en danger d'être exposé à de la fausse information si on vient donner la parole à une personne qui partage juste son opinion personnelle et non pas la science solide.
Ouais, je comprends un peu plus pourquoi on n'avait pas fait ce type de débat-là pendant la pandémie, pendant que tout le monde s'entre-déchirait. Est-ce que, là, c'est un commentaire politique que je vais te demander, tu n'es pas obligé d'embarquer là-dedans, mais est-ce qu'on aurait pu séparer la politique de la science quand on faisait des conférences de presse? Exemple, une conférence de presse avec nos scientifiques au Québec, puis une conférence de presse uniquement avec les policiers, plutôt que de mettre ça, tout ce beau monde-là, ensemble pour que tout puisse se tenir?
Je le sais pas. T'sais, c'est une bonne question. Hein. Puis ça, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont... En fait, moi, je trouve que ce qui est... Il va y avoir beaucoup de leçons qui vont sortir de la pandémie. Hein, parce que ça a été comme une première fois que, dans nos vies, à nous, on a été exposés à ça. Ouais. Puis personne n'était préparé à ça. Je veux dire, il y en a qui étudiaient ça, là, comment gérer une éventuelle pandémie, mais la réalité, on n'avait jamais vécu ça. Donc, comment on aurait dû faire ça? Est-ce qu'effectivement, ça aurait dû être voici un panel de scientifiques, puis après ça, voici... T'sais, honnêtement, j'en ai aucune idée, puis moi, j'espère qu'il y a des gens, puis en fait, je pense bien qu'il y a des gens qui se posent ces questions-là en ce moment, qui vont faire de la recherche là-dessus, qui vont faire des recommandations pour une pandémie future. Parce que la réalité, c'est que ça fait longtemps qu'on sait que des pandémies comme ça, ça nous guette. On sait qu'il va y en avoir d'autres. C'est un phénomène qui va s'accélérer à cause des changements climatiques. Donc, il faut qu'on sache comment gérer ça publiquement. Puis moi, je me mets à la place des autorités de santé publique, là. Hey, c'est pas évident, parce qu'à un moment donné, là, il faut que tu aies un message qui soit quand même un peu centralisé, dans le sens où tu ne peux pas avoir des personnes qui disent ça, puis ah non, c'est un autre à côté qui dit un peu différent, là, un autre à côté dit quelque chose d'un peu différent. Tu sais qu'on est dans une situation de crise sanitaire où il y a des gens qui meurent, là, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux avoir un message qui est clair, qui est cohérent, qui est assez similaire partout. Moi, je comprends totalement ça. Après, y a-t-il une autre manière de le faire qui ferait en sorte que ça serait plus acceptable pour les gens? Ou, tu sais, honnêtement, ça, c'est des questions auxquelles on va sûrement réfléchir dans les prochaines années. Puis tant mieux si on trouve des meilleures façons de le faire pour la prochaine fois, même si on espère qu'on n'aura pas une prochaine fois.
Non, exact. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur plusieurs des points que tu as amenés. Tu sais, il va falloir qu'il reste des écrits de tout ça, les choses qui ont bien fonctionné, les choses qui ont moins bien fonctionné au niveau des stratégies du gouvernement qui ont mis en place. Mais c'est ça. Moi, mettons, je reviens à la pandémie. Moi, j'aurais aimé que les scientifiques et les politiciens puissent être carrément séparés parce que d'un bord, tu as des scientifiques qui, la santé publique, exemple, qui veut mettre des règles un peu plus strictes. Puis de l'autre bord, tu as un gouvernement qui, oui, prétend être capable de diriger une crise, mais veut être réélu aussi. Donc, advenant le cas où on prend des décisions qui ne plaisent pas à la population, bien, le gouvernement se met en danger au niveau des prochaines élections, exemple. Fait que de séparer la science de la politique, moi, j'aurais aimé voir ça. Peut-être que ça se fera lors de la prochaine pandémie, si pandémie il y a, mais j'aurais aimé séparer les deux.
Ben, je comprends, mais juste un petit commentaire rapide là-dessus, en fait, c'est que si on regarde l'approche qu'on a eue au Québec, c'est une approche qui se compare aux autres pays qui s'en sont bien sortis dans la pandémie. Parce que nous, on s'en est très bien sortis ici. Si on se compare aux autres pays qui ont suivi les mêmes directives, la même marche à suivre au niveau scientifique, au niveau de l'épidémiologie, au niveau de la santé publique, on s'en est bien sortis comme ces autres pays-là. À la limite, oui, je comprends, mais la réalité, c'est que je veux dire, on a quand même fait la bonne chose en bout de ligne, tu sais, malgré toutes sortes d'erreurs puis de choses qui pourraient être améliorées puis ouais. tout ça.
Mais les erreurs, donc, les erreurs, c'était impossible à ne pas faire. Je veux dire, Mark oui. Hamilton, qui est un microbiologiste, je lui parlais régulièrement chaque semaine à Mark Hamilton. Ouais. Il disait, Yann, des erreurs, là, il va en avoir tout le temps parce qu'on est en train de bâtir un avion en plein vol. C'est ça qu'on fait.
Mais
on
oui.
bâtit un avion à plein vol, puis on y c'est va ça. À tâtons, puis on essaie d'y aller avec les choses qu'on pense qui vont vraiment fonctionner. Donc oui, il y a eu des erreurs, bien entendu, mais ce ouais. qui est important, c'est que les bons coups soient conservés pour peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on soit capable d'avancer peut-être plus rapidement.
Ben oui, puis il faut quand même, tu sais, moi je tiens quand même à le dire, c'est qu'il y a des pays où ils ont décidé, pour des raisons politiques, de ne pas suivre, disons, les données scientifiques, et qui ont eu un bilan beaucoup plus catastrophique que le nôtre. Donc, je pense que, tu sais, oui, définitivement, des fois, les gens ont le droit de se demander, attends un peu, est-ce que telle directive, c'est basé sur de la science ou est-ce que c'est une décision politique? Je comprends que les gens se posent cette question-là, mais quand on regarde ça rétrospectivement, je pense qu'on a suivi la science et on s'en est quand même bien sorti, à l'instar des autres pays qui ont fait ça aussi. Puis ceux qui ne l'ont pas fait s'en sont beaucoup plus mal tirés que nous. Fait que ça aussi, c'est des leçons qu'il va falloir tirer peut-être de ceux qui n'ont pas fait ça, ceux qui ont politisé, je pense entre autres aux États-Unis et à d'autres pays où les questions scientifiques ont été politisées beaucoup plus qu'ici. Puis là, ben, à un moment donné, ben, ils ont eu des beaucoup plus gros problèmes que nous. Ça, c'est un danger auquel on s'expose aussi quand on fait ça.
La télé, ta première offre à la télé en tant qu'animateur, t'as-tu stressé?
Ah, vraiment? Ben oui, c'est sûr. Moi, à un moment donné, j'ai commencé à être contacté par plein de maisons de production qui disaient « Hey, regarde, nous, on a un concept d'émission de télévision, c'est telle chose. » Puis je me suis fait proposer des choses que j'aurais jamais acceptées. Là, honnêtement, je me souviens, entre autres, il y avait une maison de prod qui m'avait dit « On va te suivre dans ton travail de pharmacie. » Moi, je faisais du remplacement dans ce moment-là. Fait que je travaillais tout le temps dans des pharmacies différentes. Tous les jours, j'étais dans une pharmacie différente. Je faisais faire du remplacement. Ils m'ont dit « On va te suivre avec une caméra. » Ça va être comme une télé-réalité où on te suit dans ton travail de pharmacien sur la route. Puis moi, j'étais comme, c'est épouvantable comme concept. Là. Je veux dire, la confidentialité des patients est où là-dedans, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben j'ai rencontré un producteur qu'eux, ils m'ont dit « Nous, on n'a rien à te proposer, on voudrait juste voir, tu sais, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? T'as-tu un concept? » Puis moi, je leur ai donné des idées, puis là, je sentais que là, j'allais être plus confortable parce que je pouvais vraiment plus y aller avec un peu mes idées. Puis,
quelque chose de ton image qui ne te mettrait pas dans le pétrin.
Oui, exactement. Fait que oui, ça m'a stressé au début parce que j'aurais pas été à l'aise d'être dans... Surtout que, comme je l'ai dit tantôt, moi, je suis pas quelqu'un qui est fait pour la télé à la base parce que je suis quand même assez timide. Donc, je pense qu'il fallait que ce soit quelque chose dans lequel j'étais très, très confortable comme concept pour pouvoir m'embarquer là-dedans.
Ça, c'est une question de l'auditoire parce que j'avais dit ce matin que tu venais avec moi pour ce que tu as ce soir. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux demander à Olivier s'il a déjà été approché pour faire de la politique? Comme c'est un bon vulgarisateur, c'est un bon porte-parole, j'imagine qu'il y a déjà des partis qui t'ont approché. Je veux dire, ton visage est connu, les gens te font confiance. T'as-tu déjà été approché? Puis est-ce que t'as refusé? Ou bien tu te dis, ben, peut-être que les prochaines élections, ce sera le cas.
Je me fais souvent poser cette question-là. Je me suis fait poser il y a 2 jours, je pense. En fait, non, j'ai jamais été approché par un parti politique. C'est vraiment jamais, jamais arrivé. Je pense pas que je serais bon pour la politique. Puis, tu sais, en fait, j'ai des sentiments un peu conflictuels par rapport à ça parce que je trouve que des gens du milieu de la science, de la santé s'impliquent en politique. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'on aurait besoin d'une représentation plus forte au niveau de la politique, parce qu'on n'est pas vraiment là, puis après on se plaint que les décisions ne sont pas basées sur la science. Ben, peut-être que si on était là un peu plus, ça aiderait, tu sais, on pourrait peut-être sensibiliser de l'intérieur, mais moi je pense pas que j'aurais des bonnes qualités pour ça, parce que tu sais, suivre une ligne de parti, dire un peu comme tout le monde, pas pouvoir dire telle chose parce que c'est pas ça qui est acceptable, tu sais, T'sais, je me suis fait connaître pour être un peu l'inverse de ça, là, t'sais, d'être quelqu'un qui est un peu un électron libre qui dit ses affaires puis tout ça. Fait que je pense pas que ça serait vraiment bon pour moi, mais en même temps, je reconnais le besoin que les scientifiques s'impliquent. Fait que je dirais pas non pour toujours, mais je me vois difficilement être dans un rôle comme ça quand même.
Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir de passer la soirée en compagnie du pharmacien. Vous voulez voir ce que le pharmacien fait, c'est lepharmacien.com. Vous pouvez le voir à la télé aussi. Une fois de temps en temps, on t'entend à la radio, comme c'est le cas ce soir sur les zones de boulevard. On va faire une courte pause. Vous avez des questions pour lui? 418-971-1021. 418-971-1021. Mon invité de ce soir, Olivier Bernard, le pharmacien. Tantôt, j'explorais ta page Facebook, puis tu donnais des réponses sur des questions qui t'étaient fréquemment posées, de ce que je comprends, là, c'est ce que j'en ai déduit. Pourquoi le pharmacien? Ça vient d'où, ce nom-là? Je me suis dit, c'est-tu le pharmacien qui est un peu rustre dans sa façon de faire, puis qu'à la limite, des fois, il passe des commentaires un peu chiens? Ça vient d'où, ce nom-là?
Hey, j'aimerais ça que ça soit aussi brillant que ça, la réponse, puis que tout ça, ça soit réfléchi. Non, c'est vraiment plus plate que ça comme réponse. En fait, moi, quand j'ai commencé en 2012, comme je disais tantôt, je faisais de la bande dessinée. Puis moi, à la base, je m'étais dit, je vais faire des personnages d'animaux. Tu sais, ça, comme moi, c'est mon personnage à moi, je me suis dit, ça va être un chien. Fait qu'au départ, c'était un genre de chien là, qui avait un sarrau, puis qui était un pharmacien. Puis moi, je me disais que j'allais faire de la BD, puis que mon personnage, ça serait ça. Puis là, je m'étais dit, pharmacien, ça fait un bon jeu de mots. Puis finalement, j'ai pas gardé ce concept-là. Fait que, après ça, le nom est resté, mais c'est sûr qu'après, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, ben ça, c'est à cause que t'es comme le chien de garde en santé » ou des choses comme ça. Puis j'ai fait « Écoute, vos explications sont meilleures que les miennes, sans blague. » Moi, c'était bien plus basique que ça.
Ben c'est ça. Puis après ça, quand tu prends des meilleures explications, tu voles ces explications-là, puis tu dis « Wow, exactement, je suis le chien de garde de la science. » T'es parfait. Est-ce qu'il te reste des projets à accomplir? Est-ce qu'il te reste des rêves à accomplir? Est-ce qu'un jour, je sais pas moi, tu voudrais aller au Canada anglais, parce que tu parles bien anglais, est-ce que tu voudrais aller aux États-Unis?
Ouf! Hey, ça, c'est une bonne question. J'ai pas d'ambition particulière, tu sais. Des fois, les gens me disent ça, tu sais, comme mes livres, exemple, sont à un moment donné, mes livres ont été lancés en Europe, tu sais, en France, puis tout ça, puis les gens étaient comme, ah, tu veux-tu partir une carrière en France? Moi, je suis comme, honnêtement, j'ai pas d'ambition spéciale. Moi, je veux dire, je fais ce que je pense qui est correct. S'il y a des belles opportunités qui s'ouvrent, je vais le faire. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais qui sont bénévoles et qui ne sont pas vraiment du travail nécessairement. Donc, tu sais, moi, j'aime ça faire des choses en étant quand même assez libre de ce que je fais aussi. Quand il y a des choses le fun qui se présentent, je le fais. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai traduit mon site web en anglais. Je me suis dit, ah, ben voilà, ça va exister en anglais maintenant. Je vais peut-être avoir un lectorat aux États-Unis ou ailleurs. C'était tellement de travail que j'ai laissé tomber ça. Tu sais, j'y tenais pas particulièrement. Fait que, tu sais, j'ai pas de rêve. Bon, si j'ai un rêve, en fait, ça serait de continuer à faire de la vulgarisation le plus longtemps possible. Mm-hmm. Parce que, j'aime vraiment ça. Deux, c'est vraiment important d'en faire. Trois, la plupart des gens qui font de la vulgarisation t'offrent pas très longtemps parce que c'est dur. Puis, c'est on en a parlé tout à l'heure, là, ça peut être très, très dur psychologiquement sur le moral. Puis, pour moi aussi, ça l'est. Donc, j'aimerais être capable d'en faire le plus longtemps possible, aussi longtemps que les gens aiment ça. Ça serait à peu près le seul rêve que j'ai pour être honnête.
Ouais, tu fais des conférences aussi. C'est des conférences surtout dans les écoles, les entreprises. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas faire, je sais pas moi, le pharmacien de passage à Québec, à la salle de Bourgneuf, en dessous de Leclerc Communication? Tu vas-tu ouvrir ça au public à un moment donné aussi?
Ah ben, je l'ai déjà fait. Hein. Je suis déjà allé à la salle de Bourgneuf, en dessous de Boulevard FM, là, entre autres. Mais en fait, c'est pas. Non, moi, je fais pas vraiment. Moi, je fais pas de corpo vraiment. Là. C'est pas du tout mon créneau. Moi, je suis plus invité par des bibliothèques, des villes, des fois, qui me disent hey, viens-t'en à Saint-Georges-de-Beauce, puis on va inviter tout le monde, puis c'est ouvert au public, c'est gratuit. Moi, ça, c'est vraiment plus ma vibe. Là. Ouais. Donc, je fais des conférences pour des organismes publics. Je fais aussi de la formation continue pour les professionnels de la santé et les scientifiques. Donc, moi, j'ai des petit domaine où j'ai acquis un peu un intérêt particulier. Donc, je donne de la formation continue sur la communication scientifique, sur la désinformation, sur les produits de santé naturelle. Fait que ça, je fais ça. Puis, je donne aussi des conférences sur la pensée critique dans les écoles puis dans les cégeps. Donc, j'ai différents créneaux comme ça que je fais. J'essaie de faire une conférence par semaine, quelque chose comme ça.
Écoute, pour ce qui est de la désinformation, tu as de la job jusqu'à tes 95 ans, mon ami. Il y en a. Hein, ça n'a comme pas de bon sens. En même temps, Je sais pas. Est-ce qu'un jour, on va réussir à enrayer ça? T'sais? Est-ce qu'un jour, il y aura de l'intelligence artificielle sur Twitter ou sur Facebook qui va être vraiment, là, vraiment, vraiment sur la coche, puis qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va être rapporté qui sera pas nécessaire, qui sera pas vrai, ben, que ça soit retiré? T'sais? Est-ce que les gens qui vont voir que cette intelligence-là artificielle existe puis qui se font retirer leurs affaires, ils vont te dire « Ben là, c'est parce que c'est Big Pharma qui est derrière tout ça. » Je sais pas. Mais c'est la désinformation, ça, pendant la pandémie, on l'a vu pas mal.
Oui, puis non, c'est toutes les données indiquent qu'en fait, c'est en augmentation, c'est en accélération. Ce que j'aime ça mentionner aussi, puis qui est important de savoir, c'est que anciennement, là, tu sais, la mauvaise information sur la science et la santé, c'était parce qu'il y avait des gens qui écrivaient des choses sur des blogs puis que c'était pas tout à fait vrai. Ou, tu sais, avant, c'était surtout ça le problème. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une industrie. Tu sais, il y a vraiment des compagnies qui existent, que leur métier, leur travail, comment ils font des profits, c'est en diffusant de la mauvaise information. Donc là, c'est rendu structuré. C'est rendu qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est un avantage financier. Leur modèle d'affaires repose là-dessus parce que, tu sais, je donne juste un exemple parmi tant d'autres, là, mais des compagnies qui vont essayer de convaincre les gens que les vaccins, c'est pas bon parce qu'ils vendent des produits naturels qui sont supposément des alternatives aux vaccins. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, étant donné que c'est une industrie très, très lucrative, on peut pas lutter, on lutte pas à armes égales. Tu sais, moi, là, comme pharmacien qui fait ça dans mes temps libres, je peux pas lutter à armes égales contre une compagnie multimillionnaire qui fait ça pour, tu sais, ça a aucun sens. Fait que, non, ça va jamais disparaître. Ça va probablement s'accélérer. L'intelligence artificielle, déjà, on voit comment est-ce que ça peut être utilisé pour produire de la fausse information aussi. Mm. Fait que je pense que ça évolue, puis ultimement, c'est un combat qui va probablement être, à mon avis, qui va être perpétuel. T'sais. Puis les moyens, ils se modernisent, et puis c'est à nous, à ce moment-là, dans la communauté scientifique, puis aussi comme citoyens, citoyennes, c'est à nous de s'adapter face à ces nouvelles façons-là d'essayer de nous manipuler, puis d'être juste vraiment sensibilisé à ça.
Ouais. Toi, bon, il y a un esprit scientifique. Là, tu regardes un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu fais abstraction parfois des biais que tu peux avoir en toi? Est-ce que tu fais abstraction aussi de, tu sais, l'algorithme qui peut dire, ben Olivier s'intéresse à telle affaire, fait que j'y montrerai pas le reste. Est-ce que tu dois des fois te tasser de là puis enlever ton biais puis aller dans des endroits où tu vas pas nécessairement pour peut-être avoir un meilleur topo?
Ah, constamment. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, c'est une des choses que j'apprends aux jeunes quand je donne des conférences dans les écoles, à quel point est-ce que ça n'existe pas une recherche complètement exemple de biais, et puis tu cherches la bonne réponse sur Google, puis tu vas obtenir la bonne réponse, ça fonctionne pas, tu sais. Un, on est influencé par toutes nos idées qu'on a déjà préconçues, on a déjà une réponse dans notre tête, on va être influencé par toutes sortes de biais de confirmation, entre autres, qui fait qu'on va essayer d'aller comme plus confirmer ce qu'on pense déjà plutôt que de chercher la vraie réponse. Après, comme tu le mentionnes, ben, les algorithmes font en sorte que les réponses qu'on va trouver nous dirigent un peu dans une certaine direction. On va se retrouver aussi sur les réseaux sociaux dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. Donc, on va être beaucoup avec des gens qui ont les mêmes opinions que nous. Fait que c'est sûr qu'il faut être conscient de ça. C'est ultra important, tu sais, pour être un citoyen ou une citoyenne bien informée, là. Il faut être conscient de toutes les limites, en fait, du cerveau humain, de tous les pièges dans lesquels notre cerveau peut nous amener, notre mémoire aussi, qui est très défaillante. Oui, effectivement, je pense qu'il faut apprendre là-dessus, il faut lire là-dessus. Puis moi, souvent, un truc que je donne aux jeunes, c'est la prochaine fois que vous allez faire une recherche pour savoir, mettons, est-ce que les changements climatiques, c'est vrai ou pas vrai? Bon, faites deux recherches. Faites une recherche comme si vous étiez convaincu que la réponse c'est oui, puis faites une autre recherche comme si, en faisant semblant que vous êtes convaincu que la réponse c'est non. Okay? Donc vraiment de se mettre dans la peau d'une personne qui est déjà convaincue, faites les deux recherches, puis ensuite comparez les deux recherches. Puis là, évidemment, je leur donne plein de trucs, là, des choses à remarquer, des petites affaires, plein de petits, on appelle un peu comme des red flags, là, des sirènes d'alarme qui peuvent remarquer. Puis là, je leur dis, comparez les deux recherches, puis là, cherchez les petits signaux d'alarme que je vous ai donnés tantôt. Puis regardez qui en utilise le plus. Fait que ça, c'est une bonne façon d'essayer de s'extraire de tous ces biais-là, parce que là, tu fais déjà les deux recherches d'emblée. Donc, tu as les deux réponses, puis après, il reste juste à savoir qui dit vrai.
Quand tu jases avec des adultes, parce que là, c'est des enfants, quand tu fais tes conférences, tu leur montres justement à éviter certains pièges. Quand c'est des adultes, y en as-tu des fois que tu réveilles, puis ils se rendent compte qu'eux autres étaient comme rendus dans une secte? qui disent « Hey Olivier, là, tu viens de dire quelque chose, puis là, je me rends compte que j'étais juste avec mes amis, puis que je me rends compte qu'ailleurs, ben, ils pensent pas nécessairement comme moi, là. »
Oui, vraiment souvent. Puis en fait, si j'avais pas ça, je pense que c'est probablement la chose qui me tient encore motivé après une dizaine d'années là, à faire ça, parce que tu sais, des fois c'est dur de faire de la vulgarisation, mais je reçois beaucoup de beaux commentaires aussi. Puis des fois je reçois un commentaire là, de quelqu'un là, que ce commentaire-là, ça fait mon année au complet. Tu sais, je me souviens. C'est une personne qui m'a dit, ma mère, elle avait un cancer, que son cancer, il était traitable par une chimio, elle voulait rien savoir parce qu'elle avait lu que c'était poison. Puis là, ben, j'ai fait lire ta BD sur le cancer, j'ai fait écouter ton épisode sur le cancer, puis elle a décidé d'accepter la chimio. Et moi, là, juste d'en parler, on dirait que ça vient me chercher, là, genre des histoires comme ça. Ouais. Fait que ça m'arrive, oui, de recevoir des commentaires comme ça. Là, récemment, j'en ai reçu plusieurs parce que j'ai sorti un balado sur la désinformation durant la pandémie. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Hey, j'en reviens pas, moi j'étais en train de tomber dans quelque chose de malsain. » Puis là, on dirait que ça m'a vraiment amené à voir les choses un peu différemment.
Écoute,
c'est une chance que je reçois des commentaires comme ça, parce que ça, c'est sûr que ça donne une belle petite tape dans le dos, puis ça dit « OK, ça vaut la peine de faire ça. »
Mais ça, Olivier, ça, c'est la vraie paye. Mais tu sais, c'est justement ces 2 ans de pandémie-là qu'on a vécu. Là, les théories de la Terre plate sont revenues. Les Américains sont jamais allés sur la Lune, c'est revenu aussi. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ces gens-là ont comme oublié ce qu'il y avait appris à l'école. Tu sais, qu'à l'époque où les Américains sont atterris sur la Lune, ouais, je vais l'avoir, je commence à être fatigué, il y avait des pays qui étaient en concurrence, là. Donc, si jamais les Américains n'avaient jamais été sur la Lune, ben le Japon l'aurait dit, là. Les Russes l'auraient dit. Non, les Américains ne sont jamais été sur la Lune. Puis ça n'a jamais été challengé, ça, par les autres pays. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, que ça revienne en 2023, 2024, que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. C'est un peu bizarre, mais la pandémie a fait en sorte qu'il y a des gens qui sont rentrés comme dans un endroit, ça a l'air d'une secte, puis ils veulent plus sortir de là. Et si tu amènes des arguments, tu ne deviens pas quelqu'un qui veut les aider. Non, tu deviens contre eux.
Absolument. Puis moi, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont tombées dans toutes sortes de théories du complot, tu sais, durant la pandémie ou avant, ou tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais on a vraiment senti qu'il y a eu une sorte d'accélération. Puis moi, j'ai vraiment beaucoup d'empathie. Il faut jamais blâmer les personnes, tu sais, il faut plutôt regarder, mais dans quel système qu'on est, tu sais, on baigne là-dedans maintenant, là. Il y a moyen maintenant là, de juste comme. Tu te fais pousser ces histoires-là sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a des médias maintenant qui se spécialisent dans ce type de théorie-là, aux États-Unis, entre autres. Fait, moi, j'ai de la peine, en fait, pour les gens. Puis je me dis, comme il y a des gens qui sont vraiment comme... Tu sais, ils se sont fait mettre des idées dans la tête, puis il faut qu'on soit là pour eux, puis il faut pas qu'on rie de ces personnes-là non plus. Il faut vraiment qu'on ait... de l'empathie puis de l'écoute, puis qu'on soit capable de les accompagner, même si c'est difficile. Parce que à un moment donné, ils vont s'en sortir, je veux pas, là. Puis ils vont avoir besoin qu'il y ait des gens qui soient prêts à leur dire « Hey, c'est quoi? C'est pas grave, regarde. Faisons le chemin ensemble pour te sortir de là. »
Exact.
Puis moi, c'est comme ça que je pense maintenant.
Non, puis c'est une bonne manière de penser, effectivement. Olivier Bernard, ça a été un super de beau moment avec toi. 60 minutes ensemble, je pense que les auditeurs ont franchement apprécié. On les invite sur ta page à toi, lepharmachien.com. Tu es disponible aussi sur les réseaux sociaux. Tes capsules sont disponibles. Capsules audio, est-ce que tu as des capsules audio? C'est dérive, hein? Est-ce que c'est encore sur O?
Dérive, c'est mon balado avec Radio-Canada, donc c'est sur l'application audio qui est
OHDIO. C'est formidable, ce podcast-là, j'en écoute encore, j'adore ça. Donc, lepharmachien.com, Olivier Bernard, je te souhaite de passer une agréable soirée, merci beaucoup encore pour le moment. Et pour ce qui est des auditeurs, ben, je vous souhaite de passer un beau week-end, on se rejase lundi pour ce qui est de Marceau le midi. Merci Olivier.
Bye, merci pas à toi.
Bye bye, à la prochaine.